When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Génération Podcast.
Génération Podcast.
Génération Podcast.
Génération
Podcast.
Génération.
Génération Podcast.
Podcast.
Génération Podcast.
Generation Podcast.
Il y a un peu plus d'un an, j'ai eu l'opportunité de concrétiser ma reconversion professionnelle du métier d'ingénieur à celui de réalisatrice de podcast. Dans tous les collectifs de podcasteurs et de podcasteuses dans lesquels j'évoluais et dans lesquels j'évoquais ce projet, j'avais l'impression qu'il y avait deux écoles. Les gens qui faisaient ça uniquement pour le plaisir, en plus de leur boulot respectif, les hobbyistes, ce que j'ai fait pendant plusieurs années, et celles et ceux qui s'y consacrent à temps plein, mais genre plus que temps plein, soit à la suite d'une reconversion professionnelle, comme moi, soit parce que c'était leur métier. En discutant avec celles et ceux qui ont décidé d'en vivre, j'ai reçu une seule et même réponse à ma question « Mais comment tu fais du coup ?» Je fais des podcasts de marque. En tant qu'auditrice compulsive de podcasts, j'avoue avoir d'abord été assez réticente à l'idée d'écouter des podcasts dits de marque. Mais puisqu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, j'en ai écouté. Et oui, j'ai fait de très belles découvertes, dont je vous ai d'ailleurs régulièrement parlé dans Génération Podcast. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce sont des interviews que j'ai enregistrées au tout début, c'est-à-dire il y a plus d'un an, alors que je commençais à me lancer dans le grand bain. Je commençais, moi aussi, à créer des podcasts de marque pour des marques et des institutions aux États-Unis et en France. Et il était super important pour moi de comprendre qu'est-ce que c'était et comment en faire un bon. Je vous propose aujourd'hui d'approfondir ensemble ce concept du podcast de marque. Car finalement, est-ce que ce serait pas un peu un nom fourre-tout ? Qu'est-ce qu'un podcast de marque ? Et comme j'aime bien aller au fond des choses, qu'est-ce qu'un bon podcast de marque ? Est-ce que le podcast est le média sur lequel toutes les marques qui seront encore là, dans 10 ans, doivent se positionner rapidement ? Est-ce que Done est véritablement better than perfect ? Et puis, moi qui écoute beaucoup de podcasts, je me pose souvent la question. Qui écoute en fait les podcasts de marque ? À qui s'adresse-t-il ? Le message commercial est-il systématiquement caché ou simplement subtil ? Enfin, on va discuter rentabilité et métriques. Car quand on dépense beaucoup d'argent, c'est aussi important d'avoir une idée du retour sur investissement. Pour cela, je me suis entretenue avec plusieurs expertes et experts de studios, d'agences, des indépendants aussi, mais également avec des marques et des auditeurs assidus pour essayer de comprendre de quoi on parle quand on dit « podcast de marque ». J'aime bien les définitions. Alors, pour commencer, je vous propose que nous nous mettions d'accord sur la définition du « podcast de marque ». Ce que j'ai trouvé en bidouillant un peu sur Internet, c'est un podcast de marque est un podcast natif, donc qui n'est pas un replay radio, qui est créé à l'initiative d'une marque ou spécialement pour elle par une agence de communication spécialisée. Les podcasts de marque sont généralement proposés sous forme de séries de podcasts permettant potentiellement de fidéliser une audience. Alors, on va le voir dans cet épisode, les podcasts en question ne sont pas forcément créés par des agences. J'en ai discuté avec Germain Loyer, qui est Brand Partnership Director chez Bababam, et pour lui, il convient aussi de définir ce qu'est une marque.
Pour nous, déjà, effectivement, quand on parle d'une marque, on voit très rapidement les annonceurs privés. Donc les grandes marques qu'on a dans notre frigidaire ou ailleurs dans notre parking, que sais-je. Ça, c'est vrai que c'est des marques. Après, derrière marque, il y a d'autres notions. Il y a les organismes publics, par exemple, qui sont aussi des marques, qui doivent communiquer. On a des médias, même, qui aujourd'hui fonctionnent très bien, soit en presse, soit en télé. Alors, j'allais dire soit en radio, ça, généralement, ils s'y connaissent très bien en podcast, mais globalement, qui doivent s'approprier le territoire audio. Et dans les marques, on a aussi les plateformes de diffusion, en tout cas les distributeurs de contenu qui veulent avoir des originals, donc Deezer, Spotify, Amazon, j'en passe, c'est des meilleurs.
Antoine Rouchier est l'auteur de la newsletter Podcast Zap de recommandations de podcasts. Il apporte une certaine nuance à ce terme podcast de marque qui m'a semblé plutôt pertinente et j'aime notamment beaucoup le parallèle qu'il dresse avec YouTube.
Je crois pas qu'on dise c'est un YouTube, une vidéo de marque, tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est du contenu indirect. Le premier podcast de marque que j'ai écouté, j'ai envie de te dire, c'est Le Gratin de Pauline Lémiot, qui faisait des interviews d'entrepreneurs et qui parlait indirectement de Gémio, la boîte qu'elle avait créée. Elle mettait en avant Gémio, mais en fait, elle ne parlait pas de Gémio. Elle parlait de l'univers de l'entrepreneuriat. Donc pour moi, voilà, ça c'est un podcast de marque. Ce qu'a fait Mathieu Stéphanie avec, je pense que tous les écouteurs, tous les auditeurs et les auditrices de Génération Do It Yourself savent aujourd'hui quelle est son agence de communication. J'aime pas trop cette appellation podcast de marque. Qu'est-ce qui fait l'intérêt d'un podcast, que ce soit d'une marque ou d'une entreprise? Bah, c'est son contenu. Si elle a quelque chose d'intéressant à raconter et qui est peut-être périphérique à l'univers de sa marque, mais qui aide à mieux comprendre l'univers dans lequel elle évolue, c'est intéressant.
Selon une des dernières études annuelles menées par Havas, le CSA et Podinstall sur les Français et le podcast, les auditeuristes de podcast ont en moyenne 35 ans. Ils vivent pour la moitié d'entre eux en centre-ville, contre environ un tiers de la population, donc c'est pas rien. Et deux tiers d'entre eux sont parents, et pour un petit tiers, des cadres supérieurs, contre moins d'un cinquième des Français. Alors, à qui s'adresse le podcast de marque? Est-ce un média pour les marques colossales et parisiennes? Est-ce que les auditeurs sont forcément consommateurs? J'en ai discuté avec Nawal Adrami, qui est la cofondatrice de Calliope, une des toutes premières agences de création de podcasts de marque, justement.
La question de si c'est pour eux ou non, je pense que la réponse sera toujours oui, c'est pour tout le monde, avec une grosse condition. Je pense que le plus gros conseil, c'est de prendre le temps de savoir pourquoi on le fait. Certes, le podcast peut s'adapter à plein de choses, mais vraiment, la première question, au-delà de c'est fancy, tout le monde le fait, etc., c'est pourquoi je le fais et à quoi ça va, enfin, vraiment ce que j'en attends de ce podcast-là. Et ça, c'est primordial parce que c'est avec ça qu'on va voir le succès ou pas du programme que l'on a créé. Si on se dit, moi, je le fais parce que je suis expert du sujet et je veux le partager aux gens gracieusement, déjà, tu auras une authenticité qui va être naturelle et ça va monter et tu voudras pas faire 200 000 écoutes du premier jour. Tu vas juste te dire, moi, je le fais parce que j'ai quelque chose à partager. Autant en tant qu'entrepreneur, etc. Si tu le fais parce que tu as quelque chose à vendre, il faut savoir qu'est-ce que tes auditeurs attendent de toi et passent au-delà de ton produit, mais en tant que marque, et pourquoi ils vont te choisir. Et du coup, c'est comme ça que tu vas construire ta ligne éditoriale. Et je pense que se dire « je vais faire un podcast », c'est pas la bonne question, c'est pourquoi je le fais. Mais un peu comme toutes les actions que l'on fait perso ou pro, d'ailleurs, ça fonctionne tout le temps. C'est vraiment le « why ». Et une fois qu'on a ça, on a cette réponse, après, le reste se déroule. Moi, je crois beaucoup en fonction de d'où est ton audience. Les marques, elles ont passé beaucoup de temps à créer, par exemple, des audiences sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Ces communautés existent. Typiquement, quand t'es pas à Paris, tout le monde est sur Facebook. Les marques, elles ont leur audience qui sont déjà présentes sur Facebook. En fait, c'est juste d'utiliser les canaux existants, les formats existants pour ramener l'audience sur les podcasts. Ça sera pas aussi instantané que les Parisiens qui écoutent des podcasts dans le métro, en zone, par exemple, un peu plus rurale. Mais par contre, les personnes sont sur Facebook. Il suffit juste de leur expliquer le médium, de leur simplifier l'accès au podcast, même sur YouTube. S'il faut le mettre sur YouTube, le podcast, on le met sur YouTube où les gens sont habitués. Et puis les plateformes, c'est pareil, on n'est pas obligé d'être sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Et en fait, c'est juste de prendre les canaux qui fonctionnent.
Donc, c'est pas forcément un média de Parisien et ce n'est pas forcément non plus un média uniquement dédié aux marques gigantesques, aux marques Monopoly colossales que l'on retrouve en majorité à Paris. J'en ai parlé aussi à Jeanne-Marie Desnos, qui, elle, est productrice de podcasts indépendante.
Il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui se lancent dans le podcast parce que c'est à la mode. Et c'est une très bonne chose et c'est un média dont il faut profiter parce qu'effectivement, il y a des personnes qui veulent écouter des podcasts. Maintenant, ça ne suffit pas, en fait, pour lancer son podcast de marque. Et il faut vraiment, à mon avis, que la marque se demande, encore une fois, qu'est-ce qu'elle a à raconter, mais pas pour elle. Enfin, il ne faut pas qu'elle s'adresse à elle-même, en fait. Il faut qu'elle s'adresse à des personnes et qu'elle se demande qu'est-ce qu'elle va leur apprendre ou qu'est-ce qu'elle va leur transmettre comme valeur, qu'est-ce qu'elle va leur faire vivre comme émotion, qui va faire qu'ils vont avoir envie d'écouter ce format-là. Parce que, comme, encore une fois, le podcast, c'est quelque chose d'intime.
Nawal Adrami nous parlait du fameux « why », le pourquoi. Est-ce qu'on se lance du coup dans le podcast en tant que marque par simple bonté ? pourquoi faire un podcast plutôt qu'un spot radio, du coup, ou un film sur YouTube, par exemple, puisqu'on en parlait à l'instant?
Alors, pour moi, il n'y a pas de combat entre les canaux. Je pense que chaque marque doit créer un écosystème et doit trouver les bons canaux, comme le choix des réseaux sociaux ou les contenus que tu crées. Un blog reste pertinent en fonction de la marque et de ses besoins. Je trouve que le podcast, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça demande aux marques d'aller chercher vraiment en elles. On parle beaucoup des marques qui ont un savoir, qui ont un positionnement avec des valeurs qu'elles prônent, etc. Et je trouve que par l'audio, tu peux difficilement mentir. Mmh. C'est pas comme l'écrire. Nous avons 4 valeurs, la proximité, l'excellence et machin. Sur l'audio, ça marche pas, il faut le prouver. Et je trouve que la voix, c'est compliqué de pas être dans la vérité. Et c'est pas facile pour les marques, quand on sort les podcasts, ça leur demande un travail qui va incarner mon contenu. Est-ce que c'est des gens externes, internes, etc. Du coup, toutes ces questions-là, je trouve qu'elles vont dans le sens des réflexions que les marques se posent, mais ça les concrétise. Mais ça vient, bien évidemment, en complément de réseaux sociaux, d'un TikTok, d'un blog et de la publicité.
Elles ont toute l'habitude de communiquer. Donc elles ont ce qu'on appelle un écosystème de communication qui est déjà hyper établi. Et en fait, cet écosystème de communication, donc c'est traditionnellement la télé, c'est traditionnellement effectivement des spots radio, ça a été donc la presse qui existe depuis très longtemps en France, heureusement. Et puis finalement, il y a eu le digital qui est venu il y a quelques dizaines d'années, on va dire. Puis le mobile, donc la géolocalisation, etc. Et donc tout ça ont un point commun, c'est la rapidité finalement de contact avec leurs audiences. Parce qu'aujourd'hui, un spot télé, on était à 30 secondes, on va dire, de moyenne. Il y a quelques années, on est plutôt passé à 20, parce que c'est des coûts qui sont phénoménaux pour pouvoir effectivement avoir des grosses vagues de télé. La presse, on est dans un contexte où effectivement, on feuillette son magazine, on lit un article, et on va être exposé à une pleine page, mais on va pas y rester des heures entières. Les spots radio, c'est pareil, on est plutôt sur des formats relativement courts qui sont des 15-20 secondes. Et enfin, les réseaux sociaux et le mobile, on va au bout de tout ça. Les réseaux sociaux et le mobile, on est plutôt sur des taux d'attention qui sont, des temps d'attention qui sont entre 4, 6, allez, 8 secondes. Et si on n'a pas accroché, son audience sur ces moments-là, on les a perdus. Les marques se sont toutes habituées à ça, c'est-à-dire avec des formats très créatifs, très puissants, très directs, qui accrochent, on va dire, l'œil, qui sont qui regardent la télé, hein, avec le son, ça vous agrippe l'attention, parce qu'on doit capter les gens et on doit passer son message très rapidement. Toutes ces marques-là, en fait, ce qu'elles retrouvent dans le podcast, c'est le temps long. C'est pouvoir se dire, je vais parler de mon sujet central, de mes efforts, de tout ce qui fait que je travaille depuis des années autour de problématiques qui vous concernent tous en tant que consommateur ou en tant qu'utilisateur, que sais-je, dans des temps qui sont beaucoup plus longs. Donc on va arriver, tu le sais très bien, le podcast ça peut durer très longtemps, ça peut durer 1 heure, 2 heures, très bien. C'est vrai que sur des podcasts de marque, on n'atteint pas ces temps d'attention qui sont gigantesques, en tout cas c'est très difficile. Néanmoins, on peut facilement proposer des formats qui vont de 8 minutes, on va dire, à 40 minutes, sur lesquels on sait qu'on arrive à attirer l'attention et à garder une audience à l'écoute, en tout cas, d'un sujet qui concerne la marque. C'est tout l'intérêt. Donc ça les intéresse, parce que après, derrière, comme effectivement la radio, on parle à l'oreille, etc. Donc ça, c'est pas non plus neuf, mais ça les intéresse de se dire, ok, maintenant j'ai un levier qui me permet de communiquer plus longuement avec des prospects, des consommateurs, des collaborateurs, que sais-je. Mais ça les force, d'un autre côté, à repenser leur façon de communiquer, parce que effectivement, quand tu parles en 20 secondes, tu dis, ma voiture, c'est la meilleure, elle est géniale, elle consomme moins bien. Quand tu vas parler 20 minutes autour d'une voiture, tu vas devoir plonger un peu plus profond dans un sujet qui est un sujet cardinal pour eux, et apporter quand même une diversité d'opinions, une diversité, une richesse de points de vue qui te permet d'apprendre quelque chose et aussi de montrer à l'auditeur que ce qu'il croit savoir d'une marque, ce n'est peut-être qu'une petite frange, et que la problématique dans laquelle évolue la marque est bien plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Voilà, c'est un peu le paradoxe. Et oui, vous pouvez communiquer en temps plus long avec des gens qui vont rester scotchés à leurs écouteurs, mais attention, c'est pas comme ce que vous avez appris, comme la façon dont vous avez appris à communiquer ces 40-50 dernières années. Aujourd'hui, il va falloir repenser tout ça.
Ok, on avance. On a donc une meilleure idée de qui peut se lancer là-dedans, à qui s'adresser, comment le faire. Alors, est-ce que l'on peut quand même avoir un peu d'ambition, une ambition en termes de chiffre d'affaires, par exemple, ou de business model, tout en créant un podcast de marque ? Pardonnez la réponse de politicien, mais pas exactement. J'aime beaucoup cette analogie de vitrine que Théo Boulanger, producteur de podcasts indépendants et compositeur, a partagée avec moi.
Je doute, pour l'instant, du moins, que les services de communication de ces marques-là fassent le podcast réellement pour qu'on puisse vendre la chose. Parce que le nombre d'auditeurs et d'auditrices sont pas les mêmes que quand ils font une publicité à la télévision. Du coup, c'est comme une vitrine. Vous passez devant une vitrine de Lafayette, c'est beau, on découvre des choses, c'est nourrissant. Est-ce que le côté artistique et décoratif de ces vitrines peuvent être critiquables? Voilà la question, je n'ai pas l'impression qu'ils peuvent être critiquables. Et tout le monde et beaucoup de personnes viennent des fois à Paris et viennent à Noël pour voir ces vitrines-là, parce qu'elles sont belles. Et ça attire les gens, ça les nourrit pas économiquement directement, mais ça attire des gens et ça participe à leur moyen de communication. Un podcast, c'est un peu pareil. On va pas travailler directement sur un sujet. En revanche, on va travailler sur un sujet qui donnera un angle d'ouverture sur un élément qui touchera en effet leur marque, qui pourrait les alimenter, mais le but étant de nourrir l'auditeur en premier lieu. Si on les nourrit pas avec sincérité, ça sert à rien.
Les indicateurs de performance d'une prise de parole podcast, aujourd'hui, nous, on intègre le podcast dans l'écosystème de communication. C'est-à-dire que le podcast, il doit trouver son intérêt central et pas faire banalement ce que font les autres médias. Il doit venir apporter de la consistance, en fait, à la communication d'une marque, quelle qu'elle soit, on en a parlé tout à l'heure. Savoir quelle est l'utilité qu'on attribue, quel est le rôle qu'on attribue au podcast par rapport aux autres. C'est-à-dire que oui, on sait que la radio, c'est un médium de trafic, on sait que la télé, c'est un médium qui te permet de rentrer en profondeur dans les foyers des Français et d'atteindre très rapidement des volumes qui sont très très forts. Qu'est-ce que le podcast vient faire là-dedans, en fait ? Une fois que t'as ça, une fois que tu t'es mis d'accord avec ton client, évidemment, parce que c'est aussi ça, le biais d'un client, est-ce qu'il est logique, il faut les comprendre, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment sous pression avec la crise économique, enfin la crise sanitaire, machin qui. Et en fait, ils ont besoin que la moindre de leurs prises de parole soit extrêmement rentable. Si on devait sortir un mot, c'est ça, efficace, rentable. Et donc, on va attribuer énormément de rôles, de besoins, d'objectifs à une seule prise de parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va te dire, une communication télé, oui, il faut que tu travailles ta notoriété, il faut que tu parles de ton produit, de tes valeurs, et il faut que tu me pousses une offre promo sur les pneus, que sais-je. Donc, en fait, quand tu multiplies les objectifs d'une prise de communication, d'un, ton message devient un peu trouble, et de deux, tu sais plus trop ce qui est intéressant. Est-ce que c'est ta notoriété qui doit bondir, ou est-ce que c'est les achats sur un site, ou les passages en magasin, ou en concession, que sais-je. Globalement, tout ça devient un peu fouillis. Donc l'un de nos rôles, le nôtre chez Bababam, mais aussi le rôle des personnes avec qui on parle à la communication, au marketing de nos clients, c'est déjà d'être très clair sur qu'est-ce que va apporter le podcast et qu'est-ce qu'on cherche à transmettre derrière ce podcast. Une fois qu'on s'est dit ça, il y a effectivement des indicateurs qui reviennent, qui vont être le nombre de plays, évidemment, le temps d'écoute, si effectivement ils ont écouté plusieurs épisodes, auquel cas on a créé un peu soit un espèce de cliffhanger, soit en tout cas une espèce de d'intérêt global au format et pas qu'un épisode. Le podcast, a priori, alors peut-être que quelqu'un, j'espère nous, allons craquer la solution, mais c'est pas parce que t'as écouté un podcast que tu t'es dit, ah bah tiens, je vais acheter ce nouveau téléviseur, il a l'air génial. Mais a priori, aujourd'hui, c'est pas un déclencheur direct d'achat ou d'abonnement ou ce genre de choses. En tout cas, enfin, rares sont les marques qui travaillent 100% sur le podcast. Et en règle générale, celles qui investissent beaucoup sur le podcast, tu les as vues ailleurs, que ça soit en affichage, en DOH, ou que ce soit en presse, ou effectivement, à partir du moment où tu t'intéresses à l'audio, t'es aussi de temps en temps ou souvent à la radio. Donc voilà, tout ça, c'est un peu biaisé. Je pense que globalement, le fait de parler en podcast aide à mieux comprendre quelles sont les valeurs d'une marque, aide à mieux comprendre quelles sont les préoccupations d'une marque et quelles sont... Quel est son univers, finalement? dans quoi elle évolue, plutôt que passer effectivement à l'achat. Donc ça vient effectivement façonner l'image que tu te fais d'une marque, et donc in fine ça vient aider le fait que tu passes à l'action ou pas en tant que consommateur. Néanmoins, aujourd'hui, il n'y a pas de lien, en tout cas je pense qu'on sait peu le mesurer.
En fait, le podcast, ça me fait un petit peu penser au SEO, Search Engine Optimization, le SEO, qui est en fait tout un art finalement de rédaction sur le web qui permet de mieux référencer son contenu sur le web. Le jour où on décide d'en faire, ça ne paye pas tout de suite. Il faut donner du temps au temps. Mais j'ai l'impression que le podcast, c'est un petit peu pareil. C'est clairement pas une stratégie à court terme, peut-être à moyen et certainement à long terme. Et clairement, si le podcast de Marc c'était uniquement à stricto sensu de la publicité, le retour sur investissement serait encore plus immédiat. Parfois certainement proche de zéro, mais potentiellement plus important aussi. Alors non, le podcast ce n'est pas de la pub détournée. C'est clairement assumé. Par contre, il convient vraiment, pour les marques, d'être très clair vis-à-vis de leurs intentions.
Puis je trouve que ça fait un équilibre, enfin c'est l'équilibre qui a toujours existé sur la communication. Les marques, elles ont envie de toucher des audiences, et en plus la réalité fait qu'on aime bien les marques. C'est notre quotidien, on est entouré de marques. Tu choisis ton micro, il y en a qui vont adorer Zoom, il y en a qui vont chercher d'autres, un Yeti plus ou moins simple. Enfin, pourquoi est-ce que tu as choisi ça au-delà de la partie technique? C'est que aussi il y a un affect avec une marque et tu as envie de savoir ce que tu achètes, et je trouve ça bien que les marques expriment qui elles sont, parce qu'en fait on va les acheter dans tous les cas.
C'est pas du one shot. Après, en revanche, ça n'exclut pas de faire aussi ce qu'on appelle un peu du test, quoi, et de l'apprentissage, de tester différents formats. Est-ce que c'est plutôt du talk? Est-ce que c'est plutôt long? Est-ce que c'est plutôt court? Enfin voilà, elle peut s'autoriser à. Mais il faut qu'elle se lance dans une logique de création de contenu, peut-être par série. Et après, comment elle va mesurer sa notoriété? Moi, je pense que c'est les réactions. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des réactions sur les réseaux sociaux, le nombre d'écoutes, bien évidemment. Ça me paraît évident. Enfin, j'ai toujours du mal à dire à une marque, OK, à partir de tant d'écoutes, vous allez être bien. Ça dépend aussi de la taille de la cible. Mais je pense que c'est surtout par l'intermédiaire des réactions. Si, par exemple, un restaurant fait des chroniques avec un cuisinier, du jour au lendemain, ses clients lui disent « Ah, je vous ai découvert à travers le podcast parce que vous parliez, par exemple, de telle recette », qui est une anecdote que j'ai vécue. Pour le coup, c'était sur le podcast Bouffon, qui avait interrogé un petit traiteur italien à Paris, qui a une toute petite échoppe. Et le type me voit arriver et me dit « Mais comment vous m'avez connu ?» Et je lui dis « Je vous ai découvert à travers Bouffon ». Et il me dit « Ah, vous êtes le énième Bouffon que je vois, entre guillemets, j'avais trouvé ça drôle ». Mais voilà, c'est à travers les interactions, ça illustre bien là la puissance de l'audio. Et l'influence potentielle.
Pour moi, ce qu'elles recherchent, en fait, je pense qu'elles ont compris que le podcast, comme ça passe par la voix, ça permet de créer une relation plus proche, parfois même plus intime, avec les personnes qui vont écouter. Et je pense que quand les marques réfléchissent à un format de podcast, la façon la plus intelligente qu'elles auront de le faire, c'est vraiment de penser à ça, de comment créer un lien, comment transmettre des valeurs qui leur sont chères, sans imposer en fait un contenu, sans vouloir dire à l'auditeur ce qu'il doit retenir, mais en transmettant un message par des histoires notamment. Et moi, je fais ça beaucoup, par des récits de vie. On peut transmettre énormément de choses par des interviews de personnes en fait.
Pour ceux qui ont du mal à avoir le principe de podcast de marque et de dire qu'une marque préempte ce canal, ça n'est pas de la publicité, c'est de la communication. Elle n'est pas déguisée, elle est complètement assumée. En fait, les marques deviennent des médias, elles ont une expertise. Au même titre que moi, par exemple, en tant qu'agence Calliope, si je communique sur le podcast, c'est qu'en fait, j'ai une expertise que je partage. Les marques, quelles qu'elles soient, elles ont une expertise qu'elles partagent. Et il y a des clients en face qui ont besoin de ces expertises-là, puisqu'il y a des transactions qui sont faites tous les jours sur le sujet et qui sont parfaitement assumées. Je trouve que au contraire, le fait d'arriver en assumant, disant « Bonjour, je m'appelle telle marque, je vous propose en tant qu'expert ce contenu-là », et en plus, pour le coup, sur le podcast, on ne le subit pas. On a quand même un travail de choix de la part de l'auditeur, et de rester ou de couper. On n'est pas sur quelque chose qui est subi. Et on a des histoires de dingue à vous raconter qui sont notre ADN. Après, vous nous aimez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, soit je vous apporte une expertise, soit je vous raconte mon histoire et elle peut être intéressante ou pas. Il y a rien de déguisé, il y a rien de malsain et c'est la base de la communication pour le coup que je trouve hyper clean. Et en plus, le médium peut pas avec la voix mentir. L'auditeur il va décrocher en deux minutes et pour le coup c'est toi qui va avoir le contre-coup d'une mauvaise image. Donc c'est vrai qu'il faut faire hyper attention et le travail que nous on fait avec les marques c'est de border les choses. Tu vois, une marque qui me dit alors moi je veux parler de mon produit dans le podcast, j'ai mon expert qui va venir, c'est moi qui vais faire le host et on va parler de tel produit, et ben c'est ok, mais ne viens pas sur le podcast. Je pense qu'on peut faire de la pub autrement ou alors on fait une pub audio sans problème. Mais sur un podcast, moi, je ne fais pas 15 minutes d'une pub de 15 minutes. Enfin, qui va se taper 15 minutes d'une marque qui te parle de ses produits ? Donc non, je pense qu'elles font l'effort de faire ce travail-là, de partage de contenu, et elles doivent le faire.
Maintenant qu'on sait les intentions qu'il faut mettre dans son podcast, que le podcast est ouvert à tous, aussi bien côté créateur que du côté des auditeurs, qu'est-ce qui fait un bon podcast de marque ? Est-ce que tous les formats de podcast se prêtent à cet exercice ?
Sky is the limit, et c'est bien, il faut que ça le soit. Après, on a des étapes. Le podcast, c'est un médium qui est quand même relativement récent pour les marques. Nous, on a accompagné plus d'une quarantaine de marques, et à chaque fois, on a fait les premiers podcasts de toutes ces marques. Donc, on est vraiment dans les premières étapes. Le format le plus, on va dire, le plus accessible pour elles, pour se projeter, parce qu'en fait, certains clients n'arrivent même pas à percevoir au début le rendu que ça peut avoir. Le plus accessible, c'est le format interview, qui paraît le plus sécurisant. Tu maîtrises un peu le contenu, etc. Il y a la post-prod. Donc, c'est rassurant pour les marques. Donc, généralement, elles commencent par là. Mm-hmm. Et après, elles peuvent... c'est notre job aussi de les faire monter en compétence ou en tout cas en expertise sur le médium et pour les pousser à voir plus loin. Par exemple, la Maison Dior, on a fait énormément d'interviews, un format talks. Et aujourd'hui, on a les Dior Stories qui sont du storytelling pur avec un habillage sonore, du sound design et on raconte l'histoire de la marque. Mais c'est vrai que c'est venu au fil du temps et en fait, au fil des saisons, on arrive à pousser les marques à aller sur quelque chose qui correspond à ce que tu vois dans d'autres studios. Tu vois, je te donne un autre exemple. Par exemple, la Mutuelle des étudiants, qui cible les 18-25 ans, on a attaqué direct par une fiction. On a fait une fiction, on voit des personnages qui ont l'âge de la cible, et on est rentré directement là-dessus, et la marque a tenté le sujet, et on en est à 3 saisons, et ça tourne.
Je pense que ce qu'a fait aussi, par exemple, Pénélope Boeuf sur Mythique était vraiment intéressant. Parce qu'elle a exploité son savoir-faire, son univers, sa touche personnelle. Donc, il y a, pour les entreprises, d'une manière générale, il y a énormément de moyens de communiquer à travers l'audio aujourd'hui, sans parler véritablement de leur marque. C'est en parlant de l'univers dans lequel elles évoluent, en parlant des thématiques qu'elles touchent, en parlant peut-être en partageant l'envers du décor aussi de leur métier, de leur univers. Voilà. Je pense que chaque marque communique différemment, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Le podcast, c'est aussi un autre canal d'expression. À elle de l'utiliser pour se raconter de manière différente.
En fait, ça va dépendre de l'image aussi que tu veux renvoyer et à tes clients. Typiquement, effectivement, nous, on accompagne essentiellement des grandes entreprises ou des grands groupes, français et international, parce que c'est une externalisation qui est totale, parce que les équipes connaissent pas et du coup, ils ont aussi les moyens financiers d'avoir une agence dédiée sur cette création ou ce médium-là. Et quand bien même c'est clé en main, on a besoin des ressources internes parce que faut qu'on s'approprie la marque, les contenus, quand on fait des entretiens avec les experts, etc. Donc malgré tout, ça leur demande encore de la ressource, mais il y a une grosse partie qui est externalisée, le budget joue là-dessus. Et la qualité de la production, surtout, qui est attendue. Après, par exemple, pour des marques plus petites ou des institutions ou des associations, le type de production que tu vas proposer dépend de l'image que tu veux renvoyer. Typiquement, pour une association ou une start-up, le homemade peut avoir un charme et peut participer à, par exemple, l'implication des collaborateurs. Il y a des collaborateurs, ça peut être un projet à côté de leur quotidien et de leur mission quotidienne parce qu'ils sont fans de podcasts, qui veulent monter en compétences, qui vont se payer une formation de quelques jours et du coup, qui vont le faire homemade. Ça va être dit dans le podcast et les auditeurs vont être OK avec ça. Et ça crée tu vois, ça a un charme de proximité, voilà. Donc ça fonctionne aussi. Nous, dans ce cadre-là, on a plus tendance à faire une belle production qu'on va pas dégrader, mais où on va créer l'écosystème pour faire ce semblant de homemade, par exemple. On peut aussi le faire, mais après, le vrai homemade fonctionne complètement. Tout le monde a quelque chose à raconter, toutes les marques, qu'elles soient petites ou grandes. Au contraire, il faut que les petites entreprises s'approprient ce médium, parce que je pense, en plus, pour les petites boîtes, c'est un vrai canal à préempter dès maintenant, parce que il n'y a pas encore une concurrence folle, parce que ça montre une capacité d'innovation, et puis ça leur permet de raconter plein de choses que sur un site, tu ne peux pas raconter. Et je pense qu'au contraire, c'est pas encore le cas, mais les petites boîtes ont tout intérêt à s'y projeter. C'est un médium qui s'installe dans le temps. Quand on parlait de campagne, c'est sûr que si t'as prévu une seule campagne avec 5 épisodes et que si t'as du budget média autour et plein de choses, oui, ça peut valoir le coup. Sinon, c'est sûr que même quand t'as des saisons 2, saison 3, etc., faut quand même avoir une récurrence. La difficulté, c'est qu'on est un peu entre les deux. C'est t'as des clients qui vont te dire, en fait, je veux tester, ce qui est normal. Je l'ai jamais fait, donc je vais mettre un billet dessus. Mais je suis pas non plus sûre et ma direction ils attendent de voir, et en même temps toi tu leur dis oui mais si on fait que ça on risque de se planter, donc il faut investir sur le long terme. Donc il faut trouver le juste milieu pour que le client réussisse à investir assez pour que ça ait du sens et qu'on puisse voir des prémices et on ait quelque chose à tester, qu'on s'accorde assez de temps dans les performances et dans les moyens accordés pour qu'on puisse voir des KPI ou des performances qui aient du sens. Et pour qu'après, on puisse réinstaller ça dans le temps. Nous, quand, par exemple, on a sorti la région Bretagne, on a fait la saison 1, on a énormément de transformations de personnes qui ont écouté en abonnés sur les différentes plateformes. Et quand on a sorti la saison 2, rien qu'à l'organique, on a eu un boost d'écoute qui n'avait rien à voir avec la saison 1, parce qu'en fait, les notifications ont fait que les gens ont été informés, et du coup, ça a pris. Et c'est génial, parce que du coup, c'est ce qu'on essaye de créer, mais si on n'avait pas fait cette saison 2, on n'aurait pas vu les bénéfices de tout le travail fait en saison 1. Donc c'est vrai que c'est un peu complexe, enfin, ça ressemble beaucoup à du SEO, où quand tu crées une page Facebook, dire à tes clients, en fait si on crée la page Facebook, c'est pas pour un mois parce que ça va pas fonctionner.
Alors finalement, comment est-ce qu'il va évoluer ce fameux podcast de marque ? J'ai demandé à toutes les personnes que vous avez déjà entendues de me parler de leur vision du podcast de marque dans le futur, des éventuels freins à son adoption, et s'ils avaient des conseils pour des marques qui réfléchissaient encore à se lancer.
En fait, je pense que l'évolution du podcast de marque, elle correspond à l'évolution du podcast tout court. C'est-à-dire que je pense qu'au début, on était habitué à des formats conversationnels d'une heure trente, deux heures, et que les marques ont commencé aussi à faire ça. Et qu'aujourd'hui, bah, voilà, les auditeurs ont envie aussi d'autres choses, de découvrir de nouveaux formats. Donc je pense que les marques suivent en fait ces évolutions où maintenant on va avoir des formats plus courts, on va avoir des formats de fiction où au début on voyait très peu de fiction, aujourd'hui on en voit de plus en plus. Je pense que les marques ont compris l'intérêt du podcast et donc elles mettent aussi plus de moyens. Je pense que les studios aussi ont évolué dans leur rapport aux marques, ils comprennent mieux leurs besoins. Ce qui fait qu'en fait aujourd'hui je pense qu'on a des contenus plus qualitatifs et qui vont avoir aussi je pense des meilleurs résultats.
Et après, moi, je pense que ce qui fera l'adoption totale, et c'est ce sur quoi nous, on travaille, et c'est mon focus pour les prochains mois et années, c'est la partie KPI et performance. Une marque, elle peut investir pour tester au départ sans avoir trop de visibilité sur les performances, le retour sur investissement, etc., mais pas sur du long terme. Et nous, on est en train d'essayer de travailler pour traquer les actions qui sont faites avec ou sans les plateformes, de pouvoir matérialiser tout ça, de pouvoir avoir une analyse pertinente de ce qui est fait pour pouvoir s'améliorer. Parce que si on se dit, on balance ça là, on a fait 10 000 écoutes, enfin moi je sais pas dire si c'est bien ou pas bien, parce que je sais pas ce qui s'est passé ni avant et ni après. Et donc je pense que l'enjeu pour que l'adoption soit pleine, ça va être la partie data et performance et analyse de tout ça. Et on pourra se jauger, on pourra voir si on s'est amélioré, on pourra voir si le format a plu ou pas plu. Aujourd'hui, on est encore en test, en réalité.
On ne touchera pas 90% de la population 10 fois en 10 jours avec le podcast, parce que ce n'est pas son rôle. Néanmoins, c'est un format qui est accessible financièrement et sur lequel, en fait, on peut apporter énormément de choses qui peut qui peut compléter son offre ou qui peut compléter son engagement ou qui peut expliquer beaucoup de choses. Il y a énormément de studios de production. Il y a beaucoup de freelances qui sont très forts aussi. Je pense que le podcast aujourd'hui est en pleine explosion dans les audiences et ça, c'est génial, notamment parce qu'il y a beaucoup d'offres de qualité et que même des petites marques ou des assos ou même des startups, en fait, peuvent trouver leur intérêt en faisant du podcast, notamment parce que on sait produire aujourd'hui des capsules récurrentes sur des sujets bien précis, la finance, le sport, que sais-je, qui peuvent trouver son audience très facilement, parce qu'aujourd'hui, si on regarde un peu ce qui se passe en France, à l'étranger, on voit qu'il y a des opportunités, on voit qu'il y a des trous, et on voit qu'il y a encore des choses qui ne sont pas prises, et donc c'est des vraies opportunités pour, je pense, toutes les marques, et encore une fois, public, privé, médias, de montrer qu'ils sont des véritables cautions, qu'ils sont des véritables experts dans ce qu'ils font, de trouver facilement son audience et de les fidéliser, et de montrer que derrière sa démarche, qui est souvent une démarche mercantile, ou en tout cas une démarche de communication, je pense notamment aux organismes publics, en fait, qui peuvent exister en podcast et effectivement proposer des choses de qualité qui vont faire... qui vont se faire connaître, dont les gens vont parler, qui vont réussir à captiver des gens dans le temps, et ça, c'est pas donné à tout le monde, parce que aujourd'hui, faire une campagne télé, faire une campagne presse, on en a parlé, etc., ça coûte très cher à une entreprise, c'est tout de suite des levées de fonds, c'est tout de suite beaucoup d'argent à investir, et forcément, ça pénalise. Là, on peut y aller progressivement, on peut créer un concept, il y a tout à faire, et donc, du coup, ça, c'est pas tout le temps utile. Parce que ça, c'est pas non plus il y a aussi l'autre côté de se dire « Ah, c'est un buzzword, je vais faire mon podcast, etc. » Réfléchissons à ce qu'on disait au début, à quoi il va servir et qu'est-ce que ça va apporter. Néanmoins, s'il y a une bonne idée, c'est vraiment le podcast qui peut nous permettre d'exister, de grandir et de montrer qu'on est bien plus que des marques et qu'on a des valeurs.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à mes invités, à mes interlocuteurs. Je pense notamment à Germain Loyer de Bababam, à Nawal Adrami de l'agence Calliope, à Théo Boulanger et Jeanne-Marie Desnos qui sont tous les deux producteurs de podcasts indépendants, ainsi qu'à Antoine Rouchier de Podcast Zap. J'espère que vous aussi, ça vous aura éclairé sur l'utilité, la création et même le fonctionnement des podcasts dits de marque. Parce que c'est quand même plus facile de réfléchir à tous ces aspects et en ayant des exemples concrets sur lesquels s'appuyer, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour discuter de deux podcasts de marque de styles assez différents. Il s'agit de Canal 16 de la SNSM qui a été produit par Jeanne-Marie Desnos, ainsi que de L'Artèche au creux de l'oreille, produit par Stéréolab en la personne de Hervé Obold pour l'agence de développement touristique de l'Ardèche. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre newsletter ou même dans la vraie vie. Ça aide énormément à soutenir mon travail de productrice indépendante. À très vite.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.